Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Avec nous aujourd'hui, monsieur Mohamed Elmaki Krapsch. Krapsch. Théologien juriste de formation, aumônier référent des hôpitaux, membre du Forum de l'Islam de France et membre du Conseil national des aumôneries musulmanes. Bonjour à vous, monsieur Krapsch.
Bonjour, monsieur. Merci de votre invitation.
Merci d'être surtout d'être là. J'ai une difficulté à prononcer les noms propres. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Je vous prie.
Donc, bienvenue avec nous aujourd'hui dans l'émission « Votre santé, un trésor ». Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, compléter votre présentation, car vous avez de multiples compétences et vous faites partie de nombreuses structures.
De toute façon, tout est dit. Donc, je m'appelle Mohamed Elmaki Krapsch, je suis théologien, aumônier, comme vous l'avez signalé, et je fais partie du FORIF, c'est le Forum de l'Islam de France, c'est une instance nationale qui s'occupe de tout ce qui concerne le culte musulman, au niveau national comme au niveau local. Et je fais partie aussi du CNAM France. CNAM France, c'est le Conseil national des aumôneries musulmanes qui accompagne les trois aumôniers, à savoir l'aumônier des hôpitaux, l'aumônier des armées et l'aumônier pénitentiaire, l'aumônier des prisons.
Voilà. Alors, pour les non-musulmans, on a l'impression que la religion, que l'islam en France est décousu, si vous me permettez l'expression, mais au niveau, bien évidemment, au niveau organisationnel, eh bien non. Vous venez de nous le démontrer, il y a des structures, il y a des relations, il y a une structuration.
Effectivement, puisque la présence de l'islam est récente, bien évidemment, en France. On va considérer que l'islam est présent sur le territoire français depuis la construction de la grande mosquée de Paris.
Oui.
Donc c'était en 1926, donc
oui,
ça
oui,
doit faire presque un siècle.
Ça fait un siècle.
Donc
ouais.
C'est relativement récent. Et ces instances. Essaye de réorganiser le culte musulman pour répondre aux besoins de la communauté musulmane qui est basée en France.
Très bien, merci.
Des Français de confession musulmane.
Merci de ces explications, de ces éclaircissements. Alors tout d'abord, dans un but pédagogique pour nos auditeurs, comment les musulmans voient-ils et vivent-ils le passage de la mort ? Puisque notre émission est basée sur la loi qui est en train de se discuter au niveau des parlements. Et est-ce que les sources sacrées de l'islam en parlent ?
Oui, effectivement. En tout cas, ça rejoint ce que nos amis les catholiques, les protestants et les juifs traitent comme sujet dans le cadre d'une religion monothéiste. C'est une épreuve d'abord et aussi c'est un voyage vers l'au-delà et la mort est citée à maintes reprises dans le Coran,
oui.
La première source du culte musulman, de la religion musulmane, et même dans la tradition prophétique. Donc il y a un rapport mystique, il y a un rapport spirituel à la mort. Quand on perd un proche, nous cherchons le soutien spirituel dans les textes scripturaires, dans les textes sacrés de l'islam.
Voilà, vous avez parlé du Coran, donc tout le monde sait que le Coran, c'est le texte sacré, le pilier, vous me permettez, de l'islam. Et évidemment, il y a d'autres sources de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous les citer pour nous instruire ?
Ok, effectivement, la première source de l'islam, nous avons le Coran. Nous considérons que le Coran est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, en ce qui concerne l'inspiration, quant à l'interprétation et à l'application, elles sont humaines, bien évidemment. Donc c'est un texte qui doit composer avec le contexte d'une manière régulière. Et nous considérons que le Coran est inspiré au prophète Mohammed ou Mahomet. Et dans ce Coran, il y a des principes et généraux et des valeurs,
oui.
Comme la miséricorde, comme la justice, comme la clémence, la fraternité. Et le Coran vient pour confirmer ce qui est cité dans la Bible par exemple, ou bien pour rentrer dans un débat théologique avec les catholiques et avec les juifs.
D'accord.
Parce que les protestants à l'époque...
Oui, il y en a. Bon. Et, mais il y a d'autres références, la tradition,
exactement,
la vie,
la
vie
il y a prophètes, la tradition prophétique ou la biographie du prophète, comment le prophète de l'islam a pratiqué la religion, les cinq piliers de l'islam.
Voilà, bien sûr.
Voilà, la profession de foi. Qui est basé sur l'unicité, de Dieu. Et puis, il y a les cinq prières quotidiennes, canoniques, le ramadan, et l'aumône, le fait d'aider les nécessiteux et les gens qui sont dans la précarité, et le pèlerinage. Voilà, ce sont les cinq piliers de l'islam. Et nous avons aussi les six piliers de la foi. C'est tout ce qui est... ésotérique, tout ce qui est spirituel, comme croire en Dieu.
Ésotérique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui est interne, alors même pas ésotérique comme on l'emploie dans la littérature actuelle, ésotérique dans l'intimité spirituelle de l'humain.
Tout à fait, dans l'intimité spirituelle et aussi met l'accent sur la relation avec Dieu.
Oui.
Voilà, croire en lui, croire fermement dans les prophéties des prophètes, comme Moïse, comme Jésus pour nous, et comme Mohammed, notre prophète. Et depuis Adam, parce que pour nous, nous avons 124 000 prophètes et 314 messagers. Les messagers, les prophètes qui sont cités dans la Bible sont cités également dans le Coran, avec quelques différences et avec quelques divergences. Ensuite, nous avons l'interprétation qui est basée sur la raison pour comprendre le texte et pour l'appliquer dans n'importe quelle société. Parce qu'en fait, le Coran et la tradition prophétique ne s'agit pas d'un corpus juridique. Hein. C'est un texte spirituel et un texte religieux. Et l'homme doit être capable d'interpréter, de réinterpréter ces textes, en fait. Et aussi, il y a une autre source, c'est la coutume. La coutume est très importante, en l'occurrence en France, la coutume française. Et quand on parle de la coutume, on parle des usages, des mœurs et la loi, finalement. Donc, il faut composer avec...
Donc, c'est quand même un texte vivant, quand même, qu'on le veuille.
Exactement, parce que c'est bien de poser cette question, parce que beaucoup de personnes pensent que la seule source pour les musulmans, c'est le Coran. Le Coran, c'est une base, tout simplement. Et même dans le Coran, nous avons des versets qui sont abrogés, ou bien qui sont tombés en désuétude. Par rapport à l'époque. Donc, nous avons des versets historiques qui ne sont plus applicables, ne sont plus valables aujourd'hui. Nous avons des textes qui sont immuables, des versets qui sont immuables, qui ne changent pas,
qui sont éternels. Quoi.
Exactement, comme les cinq piliers cités, les six piliers de la foi, et la bienfaisance et l'excellence morale. Et finalement, nous avons des versets qui portent sur tout ce qui est eschatologique.
Oui. Voilà, eschatologie, c'est la vision de l'après et de la mort.
Exactement.
Voilà, alors merci de ces explications, parce que c'est important pour nous qui connaissons mal quand même l'islam. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur comment une ou un musulman accompagne les mourants, les personnes en fin de vie?
Oui, c'est une question qui est très importante et intime. Moi, en tant qu'aumônier des hôpitaux et avec mes collègues, nous accompagnons en fait les malades qui sont en fin de vie pour essayer de soulager leur souffrance pendant cette épreuve et dans cette épreuve. Et les familles comme les patients convoquent souvent, je parle des musulmans, convoquent souvent la religion pour avoir ce soutien spirituel. Pour avoir ce réconfort spirituel. Il faut être modeste. Parce que, en fait, chaque cas est unique. Donc, on ne peut pas donner une même approche, en fait. Il faut s'adapter à la personne.
Voilà, vous personnalisez
exactement,
la relation et
tout
vous
à fait.
Faites des cas particuliers.
Voilà, il faut accompagner la personne. Chaque personne a sa sensibilité, son histoire, son vécu. Et on apprend, en fait, chaque jour, on apprend.
D'accord. Oui, mais ça, c'est un échange. On apprend de l'autre comme l'autre apprend de nous. C'est un échange. Alors, je vous ai invité donc, dans votre Santé un trésor afin que vous vous exprimiez sur les nouvelles dispositions législatives ou les futures dispositions législatives concernant ce que l'on nomme la fin de vie. Alors, il y a le suicide assisté ou... les textes n'envisagent pas l'euthanasie, mais enfin, bon, beaucoup en parlent. Alors, que risque de modifier la nouvelle législation ? Quelle est l'opinion de l'islam ?
En fait, concernant cette proposition, déjà je salue le fait de traiter cette question en deux textes divisés, en deux textes séparés. C'est très important.
Alors pour vous, l'euthanasie, c'est une chose. Alors, prenons l'euthanasie pour simplifier. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, ou l'aide à mourir. Bon. Et puis, le suicide assisté. Pour vous, c'est deux choses.
Non, il y a les soins palliatifs.
Ah, d'accord. Vous, c'est les soins palliatifs.
Et puis, l'aide active à mourir, c'est le terme qui est retenu. Nous insistons beaucoup sur les soins palliatifs. Et il faut accompagner le patient. En fait, dans cette épreuve et lutter contre la souffrance physique ou psychique et lutter contre la douleur, parce que la douleur n'est pas un objectif en soi.
D'accord.
N'est pas un objectif en soi et nous avons dans l'éthique musulmane des citations qui insistent sur la sacralité de la vie humaine.
Oui.
C'est très important et en cas de douleur réfractaire, en cas de souffrance qui est insupportable et s'il n'y a aucun moyen à sa disposition pour soulager cette souffrance, dans ce cas-là, on peut penser à la sédation profonde et continuer jusqu'au décès.
D'accord, mais la sédation profonde fait partie de la loi Leonetti.
Exactement.
C'est quelque chose qui... Donc vous êtes pour les soins palliatifs, mais en ce qui concerne le suicide assisté et l'aide à mourir.
Le suicide assisté et l'aide à mourir, dans l'éthique musulmane, nous ne statuons pas sur cette question. Et dans les familles musulmanes, cette question ne se pose pas. Cependant, il faut comprendre la personne qui formule cette demande. Il faut l'accompagner sans la juger, bien évidemment.
Donc, ce qui est important pour l'islam et que vous nous dites, d'autant plus en tant que aumônier musulman, c'est que la position de l'éthique musulmane tend vers les soins palliatifs pour accompagner la fin de vie.
Effectivement.
Et s'éloigne un peu du projet de loi du suicide assisté et de l'aide à mourir, parce que vous l'avez dit dans nos discussions, la vie est sacrée. Donc quelque chose de sacré ne doit pas être, si vous me permettez, profané par l'humain, par quelque chose d'humain. Quoi, hein.
Tout donc, à fait.
Est-ce que c'est votre façon de...
Effectivement, dans la religion, dans l'éthique musulmane, la vie est sacrée et la douleur, il faut la combattre, il faut lutter contre la souffrance et la douleur. Donc il faut utiliser tous les moyens possibles.
Mais c'est le but des soins palliatifs.
Tout à fait, c'est les soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, il faut encourager en fait, les soins palliatifs, il faut vraiment orienter beaucoup d'efforts dans...
Alors, rappelons que les soins palliatifs, bien évidemment, le maître symptôme, comme on dit, puisque moi j'ai pratiqué les soins palliatifs, c'est la douleur, mais il y a des souffrances. Par exemple, l'angoisse, c'est une souffrance, mais pas une douleur. Donc il faut prendre ça. Et puis il y a des traitements de support. Hein, de support.
Oui, oui.
Par exemple, il n'est pas incongru en soins palliatifs de mettre quelqu'un qui est en fin de vie, qui va mourir dans une semaine, sous antibiotiques, parce que ça évite des désinfections, des souffrances inutiles. Donc il y a un arsenal thérapeutique, c'est ce que vous... Vous préconisez donc plus les soins palliatifs. Alors je vous propose une trêve musicale avec les 1000 et un songe d'Orient de Tak Atou Rak, un orchestre francilien singulier, visuel, qui est constitué de médecins, ingénieurs, avocats, professeurs de fac, faculté, informaticiens ou chefs d'entreprise qui partagent un amour immodéré pour le patrimoine moyen oriental qu'ils interprètent avec brio sous les férules du chanteur marocain Abderrahman Kazoul. Thank you. écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.fm. Nous recevons aujourd'hui M. Mohamed El Mahdi Krapsch, aumônier musulman des hôpitaux, et pour évoquer la fin de vie. J'ai eu l'occasion de travailler avec des aumôniers musulmans lorsque j'accompagnais des patients en fin de vie et en soins palliatifs. Vous et les musulmans, comment vous situez-vous dans la pratique des soins palliatifs? Quelle est la place de l'aumônier dans l'ensemble pluridisciplinaire de l'accompagnement en soins palliatifs? Oui. Parce qu'il n'y a pas que les soignants dans les soins palliatifs.
Oui, tout à fait. Personnellement, je travaille en tant qu'aumônier au CHU de Montpellier, donc j'ai une relation de travail avec les soignants.
Bien sûr.
Et donc, ils ont la gentillesse de me contacter à chaque fois quand il y a un patient qui a besoin d'être accompagné. Et aussi, j'accompagne les familles dans leurs questionnements et dans leurs interrogations en général. Je fais partie aussi du comité éthique de l'établissement. Et dans le comité éthique de l'établissement, nous traitons ces sujets. Donc, quand il y a une difficulté dans la relation entre le médecin, entre les soignants en général, les familles, les patients, à ce moment-là, j'interviens pour accompagner, pour faciliter les échanges et même parfois pour traduire et interpréter pour les personnes
qui... Oui, parce qu'il y a des fois un problème de langue.
Exactement, qui ne s'expriment pas en français, surtout pour les personnes qui viennent de l'étranger.
Oui.
Donc, le rôle de l'aumônier à l'hôpital est un rôle très, très important et surtout dans ces moments qui sont difficiles. Et l'accompagnement aussi continue même après le décès. Nous accompagnons donc les familles et nous répondons à leurs éventuelles questions.
Alors ce que vous dites est très très important, c'est-à-dire que les soins palliatifs, ce n'est pas jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la mort pour que la mort soit le moins pénible possible. Et, on peut pas... et après, c'est après, hein, c'est l'endeuillé.
Tout à fait.
C'est l'endeuillé, sur les religions aussi, c'est le défunt. Et donc, les soins palliatifs se continuent après le décès du défunt.
Il y a le défunt, il y a la famille, les proches, les enfants.
Vous accompagnez les familles.
Tout à fait. Ça peut durer. Il y a un suivi même après. Et ça dépend des familles, ça dépend des situations.
Parce qu'en soins palliatifs, il y a l'équipe de professionnels de santé où le médecin n'est pas forcément au centre. Hein, c'est bien souvent l'infirmière ou des fois la psychologue. Mais l'aumônier est une place primordiale. Bon, dans la mesure où la personne appartient à une religion, si la personne n'a pas eu de démarche religieuse dans sa vie, d'abord, il y en a qui la découvrent, hein, qui se convertissent.
Au moment. Oui, exactement.
Hein, c'est un moment de conversion, hein, qu'importe
en tout cas,
la religion. Mais c'est important,
l'aumônier. En tout cas, l'aumônier, en tant que ministre des cultes, et fort heureusement, grâce à la loi 1905, dans son article 2, on a la possibilité de travailler dans un milieu laïque,
donc
l'hôpital. C'est une chance alors pour nous, mais tout en faisant aussi attention à la diversité qu'on a au sein de l'hôpital et aussi au bon fonctionnement des services. Donc quand il y a des questions d'ordre culturel, à ce moment-là, l'aumônier peut intervenir pour éclairer d'abord le médecin par rapport à la demande du patient et pour éclairer aussi la famille parce qu'on ne pouvons pas pratiquer à l'hôpital. On ne peut pas pratiquer la religion comme on la pratique à la mosquée ou chez
sûr,
soi.
C'est normal. Alors, je voulais vous poser une question aussi, en ce qui concerne les douleurs, les souffrances de manière générale, hein, les souffrances endurées, qui sont les pires détresses que peut vivre. Hein. Alors, bon, vous en avez déjà parlé, mais qu'en dit l'islam, peut-être en dehors des soins palliatifs, que pouvez-vous nous en dire et comment une ou un musulman peut-il aborder la douleur, même si c'est une douleur qui n'est pas dans le cadre de soins palliatifs? Une douleur d'une maladie chronique, neurologique. Hein.
Ah, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut prendre tous les moyens et toutes les mesures nécessaires.
Médicaux
pour lutter contre la souffrance et la douleur et pour avoir un soulagement par rapport à la douleur. Et aussi à une dimension spirituelle, donc nous considérons que la douleur est une épreuve. Et donc, c'est un test, c'est un moyen pour avoir une expiation, hein, si je puis dire cela
expiation,
ainsi.
Expiation, expliquez-nous.
Expiation pour avoir plus d'élévation spirituelle et pour être dans la proximité avec Dieu, parce qu'on sait que les prophètes ont eu des épreuves.
Oui, mais quand on lit la vie de Mohammed, c'est affreux, quoi. Oui, il a perdu un fils.
Oui. Et Jésus aussi, également. Ah, Moïse. Oui. Donc, tous les prophètes, en fait, représentent un exemple pour les musulmans. Et ça aide le musulman pour affronter l'épreuve de la maladie.
Bon, très bien. Donc, cette importance de la douleur dans la religion comme moyen de se rapprocher, hein, si vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, hein, de se rapprocher d'une spiritualité, d'une relation avec le divin. Alors, bon, pour résumer, on l'a déjà dit, mais quand même pour bien éclairer, parce que c'est une émission aussi pour bien éclairer la position des religions, pouvez-vous nous entretenir sur quelle serait la meilleure façon d'aborder, de vivre la fin de vie et cet accompagnement pour les musulmans? Si vous deviez choisir, vous avez dit les soins palliatifs, qu'est-ce que vous feriez?
Accompagner le patient, donc il faut toujours garder l'espoir. Voilà, il faut mettre l'accent sur tous les versets
Vous introduirez des versets.
Des versets qui portent sur la miséricorde, voilà. Sur la clémence, sur l'accueil.
Vous les lisez quand vous.
Oui, et parfois même on explique ces versets. Et la lecture se pratique en arabe, c'est le texte fondateur. Voilà. Encourager la famille à donc accompagner le patient et être attentif à leur demande et ne pas traiter tous les cas en fait de la même manière,
de personnaliser,
en fait,
on l'a dit en début d'émission,
exactement, hein. Et c'est cas par cas en fait.
D'accord, donc ouais. Il y a un bon accompagnement. Mmh. Ouais, il faut remarquer une chose quand même, c'est que dans les familles musulmanes, il y a plus d'entourage dans les hôpitaux, etc.
Il y a une solidarité.
Solidarité, oui. Quand même.
Il y a une solidarité familiale, une solidarité dans la communauté. Et il faut être toujours modeste et humble en face de ces épreuves, parce que c'est la personne qui est concernée et qui vit cette épreuve, pas le moulin.
Eh bien, cher Mohammed El Mahdi Krapchen, je vous remercie au nom de nos auditeurs de nous avoir éclairés sur ce que propose l'islam et son éthique sur la fin de vie. Merci infiniment à vous. Et j'espère que la nouvelle Université populaire des religions de Nîmes, dont vous êtes membre très actif, abordera ce type de réflexion et fera partager l'éthique de l'islam. Merci à vous.
Merci à vous. Merci
alors,
beaucoup.
Merci. J'ai l'habitude de clore cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Alors j'ai demandé à Mohammed El Mahdi Krapchen de nous citer des livres sur le sujet d'actualité ou des écrits, ce que vous avez écrit.
Je pense à Amin Malouf, c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Le naufrage des civilisations.
Oui.
Voilà, c'est un livre qui est très intéressant, qui raconte son expérience en tant que quelqu'un qui est venu du Liban et qui s'est installé en France. Il y a aussi le dictionnaire amoureux de l'islam,
de
Malek Chebel. Voilà ce que j'ai comme proposition.
Eh bien, on vous remercie infiniment de ces indications. On essaiera de les consulter et d'en prendre connaissance. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.